voix nue. Cette semaine, Alban Pinaranda rencontre Marie-Josée Malice. Ce soir, la commune Aubervilliers.
Marie-Josée Malice, bonsoir.
Bonsoir.
Marie-Josée Malice, en 2014, vous vous êtes vue confier la direction du théâtre de la commune d'Aubervilliers. Dans quel état d'esprit avez-vous pris alors la direction de la commune? Avec quelles idées? Avec quelles convictions? Mais peut-être aussi avec quels doutes?
Oui, j'étais très émue d'être nommée à la tête du théâtre de la commune, qui est un théâtre très célèbre, assez beau, qui est le premier centre dramatique national de banlieue, qui avait été donc créé à l'initiative de Jacques Ralit et de Gabriel Garand. C'est très émouvant dans la vie de quelqu'un qui fait du théâtre, d'avoir à diriger une maison, comme on disait, du temps de Jouvet. Il y a des fantômes comme ça, très, très prestigieux. Il y a Jouvet, il y a Vitesse, il y a des gens comme ça. Je considérais que c'était un honneur, une chance, et puis la possibilité d'un accomplissement pour la vie d'une artiste de théâtre. Mais en même temps, j'ai toujours dit que je venais faire une enquête parce que je n'étais pas sûre que ce soit des lieux qui soient encore adaptés à notre désir. Mon constat, c'est plutôt qu'on est à un moment de l'histoire où l'institution arrive un peu à bout de souffle, en fin de cycle, et qu'il y avait donc des choses à reprendre, à essayer de régénérer. Vous savez, il y a un courant intellectuel qui s'appelle l'analyse institutionnelle et qui essaie de voir qu'est-ce qui d'une institution est en train de s'épuiser et qu'est-ce qui doit être réveillé et presque rendu à sa nécessité première. C'est ce qu'avaient fait admirablement, par exemple, les gens pour la psychiatrie, Jean Houry, Toscaïès, qui avaient réveillé la psychiatrie par la psychiatrie institutionnelle. Moi, j'avais un rêve comme ça, qui était que, du point de l'artiste que j'étais, je sentais que c'était des maisons un peu essoufflées, qui n'étaient pas complètement branchées ni sur les besoins des gens, ni sur le rapport qu'il fallait inventer en nouveauté des gens avec le théâtre, ni non plus véritablement avec l'énergie des artistes. Et donc, j'étais venue faire enquête, j'étais venue voir s'il y avait une marge de manœuvre pour que je puisse réveiller, rajeunir, réapproprier l'institution.
Et avez-vous hésité avant d'accepter la commune, Marie-Josée Malice?
Non, j'ai pas hésité, mais j'avais des doutes. Je ne savais pas si je devais postuler. Tout simplement parce que le lieu, l'architecture de ce théâtre, était pour moi quand même une source d'angoisse. C'est un théâtre assez vétuste et surtout qui propose un rapport entre la scène et la salle, qui est un rapport compliqué. Et puis, un ami, Frédéric Saccard, avec qui j'ai postulé, qui est le directeur adjoint du théâtre, avec moi, qui est très important dans cette aventure, m'a dit « Mais Marie-Jo, tu fais un théâtre qui justement met au cœur de son travail la relation scène-salle, et il n'y a guère que toi qui puisse, en un sens, prendre à bras le corps cette question pour cette salle désuète, vétuste, compliquée. » Et il m'a dit, tu fais un théâtre quoi, voilà, qui s'inscrit suffisamment dans la passion de l'histoire du théâtre et dans le rapport à l'architecture pour que tu puisses vaincre ces obstacles. Voilà. Donc je l'ai écouté.
Et très concrètement, comment se passe la transition d'une direction, d'une équipe à une autre? Comment se prépare en amont l'arrivée dans cette fonction, si elle se prépare?
Non, pour moi, elle ne s'est pas préparée. La directrice adjointe Catherine Dan était assez disponible au sens où elle était là pour nous transmettre des éléments administratifs. Mais Didier Bezas, mon prédécesseur, n'était pas du tout content de partir, pas du tout. Pas du tout content non plus que je sois nommée. Non pas que au départ il ait eu une animosité personnelle, mais je pense qu'il aurait voulu être consulté sur sa succession. Donc, il n'a pas transmis. Donc, c'est un moment étrange. Là, pour le coup, la chaîne du théâtre n'a pas lieu. Et on arrive, on est assez seul. Bien que l'équipe ait quand même été amicale, encourageante. Mais c'est des moments paradoxaux pour une équipe aussi. Les gens sont assez sympathiques, bienveillants. Mais en même temps, ils ont peur. Ils ont peur du changement. Donc, on est tous un petit peu, on traverse un petit peu un moment d'anxiété, à vrai dire.
Et comment a été accueillie votre arrivée à Aubervilliers ?
De manière aussi paradoxale. Parce que, en effet, bon, mon diagnostic, si vous voulez, c'est que, et ça va être aussi, du coup, je pense à l'explication des aventures qui me sont arrivées à Aubervilliers, qui sont des aventures un peu épiques. Mais mon diagnostic, c'était que l'institution théâtrale, de manière générale, est belle, mais elle repose aussi sur pas mal d'effets de discours. Et parfois, ce sont des simulacres, c'est un peu de la rhétorique. Et souvent, on prétend, en effet, faire du théâtre populaire ou diriger un théâtre populaire, mais à bien y regarder, il n'est pas du tout sûr que ça soit le cas. À Aubervilliers, le théâtre était approprié par une partie de la population qui était très militante, qui était très attachée à la direction de Didier Bezas, qui était aussi une population vieillissante. Et ça, c'était quand même dénoncé par beaucoup de gens. Et donc, ces gens-là ne m'ont pas accueilli avec beaucoup de... je dirais de plaisir, je crois.
En 2014, au premier été de votre nomination au Théâtre de la Commune, vous présentiez au Festival d'Avignon Hyperion, une adaptation du roman d'Hölderlin. C'était au Théâtre Benoît XII. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez alors fait l'unanimité, mais à peu près totalement contre vous, Marie-Josée Malis. À quelques rares exceptions près, vous avez été littéralement assassinée par la critique. On a parlé de catastrophe, de public prenant la fuite, d'ennui mortel, etc., etc. Mais avez-vous vous-même vécu ce moment comme un échec qui a pu vous nuire justement à votre arrivée?
Ah oui, c'était un désastre objectif, c'est-à-dire que on pouvait pas plus mal commencer une direction que comme je l'ai commencé avec Hyperion. C'était une vraie cabale. Enfin, c'était comme un moment qui, comme il y en a à Avignon, hein, il y a des phénomènes comme ça de curés, d'hystérisation, enfin des phénomènes de comme ça, d'hystérie de groupe. Donc objectivement, oui, c'était un désastre. Subjectivement, après la deuxième représentation, enfin, après la première représentation, au matin de la deuxième, j'ai demandé aux acteurs s'ils souhaitaient qu'on s'en aille, parce que je ne voulais pas qu'ils souffrent. Et j'ai senti tout de suite qu'on allait être jetés, au crash. Enfin, on était vraiment sous les crachats du public, avec une presse très très violente. Les comédiens m'ont dit non, ce spectacle. On le porte, on l'a construit, on sait pourquoi on est là. Et chaque effet d'humiliation, au contraire, renforce la nécessité qu'il y a à dire ce texte. Donc eux ont vécu une sorte de situation extraordinaire qui était que, déjà quand Hölderlin a écrit le texte, c'était une voix qui clamait dans le désert. Et là, il y avait comme une réduplication de la situation. Et pour les comédiens, ça les fondait à dire et à être encore plus fortement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis descendue dans la salle, ce qui m'arrive jamais. Je me suis mise dans la salle. D'habitude, j'ai trop peur, j'y suis pas. Et je faisais la barricade, je protégeais les comédiens pour le cas où quelqu'un aurait eu envie de en venir aux mains. Ça s'est vu. Et on a tenu comme ça, on a tenu. Et quand je suis rentrée à Aubervilliers, j'en ai déduit une chose un peu extraordinaire, dont je suis assez fière. Je me suis dit, j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien à perdre. Il faut que ça soit une chance. Donc, à partir de maintenant, je vais faire ce que je veux. Et je vais diriger ce théâtre selon un principe de courage et de pur désir. Et si ça ne va pas, on viendra me le dire et on me mettra dehors.
Vous évoquiez les comédiens, beaucoup, la plupart peut-être même de ceux que l'on retrouve toujours aujourd'hui avec vous au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers. C'est durant vos années d'activité dans le Sud que vous les avez rencontrés et que se sont tissés les liens avec eux, Marie-Josée Malis.
Oui, ce sont de très fidèles amis, très chers amis. On a créé la compagnie ensemble pour certains. Pour d'autres, plus jeunes, ils nous ont rejoints, en particulier Sylvia Etchetto, qui est une comédienne extraordinaire. Elle nous a rejoints parce qu'elle a été notre élève. On l'a formée dans une petite école que nous avions donc créée à Perpignan. Et puis il y a Juan Crespillo, qui lui vient de Suisse et que j'ai rencontré lorsque j'ai créé un Pirandello à Genève. Mais les autres, Olivier Hérault, Pascal Batigne, enfin Sandrine Rommel, ce sont des très chers amis, ce sont les acteurs les plus doux de la Terre et je leur ai fait tout vivre. Parce que je crois qu'en effet, on a été une des compagnies, peut-être l'est-on encore, qui vide le plus les salles. Il y a quelques prédécesseurs prestigieux, hein, Claude Régis, dont je, évidemment, je me revendique pour essayer de sauver ma peau. Mais eux ont été d'un courage ou d'une constance. Ils ont un fort intérieur qui est inexplicable pour moi, qui est d'une beauté inexplicable. Je dis souvent que c'est des athlètes éthiques. Être un acteur, c'est très très haute difficulté. Hein. Il faut tout passer avec grâce. Et chaque faute est presque comme chaque erreur est presque comme une faute morale. Quand un acteur n'est pas juste, il en ressent de la honte. Et quand ça se fait en plus devant un public à moitié hostile, c'est dur. Alors évidemment, il y a aussi l'effet inverse, à savoir que quand une salle est divisée à ce point, il y a aussi des gens qui sont absolument passionnés et qui vous font savoir que c'est le théâtre qu'il leur faut. Et ça, les acteurs, ils tiennent avec ça, en fait.
Vous avez absolument besoin du collectif, de l'amitié partagée autour de la même utopie.
Oui, je ne peux pas faire du théâtre sans eux. Je ne sais même pas ce que ça voudrait dire, en fait. Pour moi, l'idée même du théâtre s'évanouit si je n'ai pas devant moi les gens par qui la possibilité du théâtre passe, en fait. Comme je vous l'ai dit, en fait, le théâtre, c'est l'humanité qui vient se confronter, qui vient s'exposer avec la plus grande honnêteté, le plus grand désir aussi, la plus grande liberté, qui vient de se confronter aux questions de vie et de mort, en fait. Hein. Et donc, pour ça, il faut des acteurs, qui sont en effet des êtres humains les plus honnêtes qui soient. Mon théâtre passe par la rencontre avec ces gens-là. Il est situé, il est incarné, il est une œuvre de ce temps avec eux. Souvent, quand je suis heureuse en répétition, j'ai les larmes aux yeux, puis je leur dis « Eh ben, les gars, on peut mourir, on aura fait du théâtre. »
Prendre la tête de la commune, est-ce que cela a été pour vous un changement d'existence radical ?
Oui, ça a été un changement d'existence radical. Je dis souvent que j'ai même perdu pendant longtemps ma joie de vivre. C'était dur. C'était un travail que je ne connaissais pas. D'abord parce que ça pose la question du pouvoir. Je suis devenue directrice. Or, moi, je n'ai jamais vécu, à part... Même quand j'étais prof, j'arrivais à, comme je vous l'ai dit, à construire un pacte, comme ça, préservé d'amitié avec les enfants. Et donc, je n'avais jamais vécu dans une relation où le pouvoir s'objective. Qui plus est, une relation où j'ai le pouvoir entièrement, au sens de la direction institutionnelle d'un lieu. Dans la compagnie, les choses se résolvent dans une sorte d'amitié, de partage des questions. Une compagnie, c'est une utopie incarnée. Tout se résout par le dialogue, etc. Et puis là, soudain, j'étais confrontée aux places, aux fonctions, aux rôles, comme on dit, etc. Et je ne crois pas que je sois faite pour ça. C'est-à-dire que je crois que je peux le faire. Je le fais, on dit, je pense que ça s'entend malheureusement, je crois que j'ai de l'autorité, j'ai une autorité naturelle, je peux le faire, mais ça me fait souffrir en fait. C'est pas comme ça que je conçois les relations entre les gens, j'ai toujours l'impression que les gens devraient être mis en capacité de décider par eux-mêmes.
Et justement, Marie-Josée Malice, en 2018, le théâtre de la Commune a connu un rude conflit qui a opposé certains de ses salariés à sa direction, à vous donc, et à l'équipe qui vous accompagne. Un conflit dur, avec une grève partielle mais longue, qui n'a cependant pas empêché les représentations ni le fonctionnement du théâtre. Ce conflit, inédit dans ce genre d'établissement, je crois, a beaucoup fait parler, réagir. On ne peut pas revenir ici sur le détail de cette affaire, mais au-delà de ces péripéties, avec maintenant un peu de recul, ce conflit, que révélait-il selon vous de l'état des lieux du théâtre, de la culture et de leur relation avec la vie sociale et la représentation politique et syndicale ?
Beaucoup de souffrance, beaucoup de choses qui ne sont pas traitées, des couches et des couches de déni, de non-dit. En un sens, c'est ce que je vous disais, je crois que la relation de l'institution théâtrale à la population s'est légèrement amortie, atténuée, complexifiée aussi, tout simplement. Faut pas oublier que ces théâtres sont nés à des moments où le public était organisé. Il y avait les comités d'entreprise, la classe ouvrière. Enfin bon, aujourd'hui, le public s'est atomisé. C'est beaucoup plus compliqué d'établir l'alliance d'un théâtre et de la population. Et là-dedans, donc, les travailleurs d'une maison théâtrale sont en but à beaucoup de difficultés. Or, ces difficultés ne sont pas traitées, elles ne sont pas objectivées. Tout le monde fait comme si ça n'était pas vrai. Tout le monde fait comme si le peuple était encore là ou existait. Voilà. Et donc, moi, mon défaut, et en même temps ma qualité, je crois, ça a été évidemment de vouloir objectiver, donc de proposer aux travailleurs de procéder à une sorte de mise à plat de ce qui n'allait pas. Pour certains, je crois que c'était une joie, même un soulagement. Et pour d'autres, très minoritaires, 3-4 personnes, ça a été un refus catégorique et qui donc a été relayé par la délégation syndicale et qui est devenue une affaire, en fait. Alors, une affaire pour des raisons très singulières aussi, c'est que le conflit est sorti de la maison et est allé sur les réseaux sociaux. Donc, dans la maison, il n'y avait pas de conflit, je n'ai jamais été mise devant les prud'hommes, enfin, il n'y a pas de conflit objectif. Mais il y a une rumeur qui est allée sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ça a fédéré, comme toujours, les nuées, les fameuses nuées des réseaux sociaux, fédéré des gens alors qui étaient contre l'institution et qui voyaient en moi une patronne ou une notable à abattre, des gens de l'institution beaucoup plus conservateurs, alors qu'ils me faisaient le reproche inverse, qui voyaient en moi une espèce de révolutionnaire ou de réformatrice irresponsable. Enfin, tout ça a agrégé beaucoup, beaucoup de ressentiments.
Et quelles leçons avez-vous tirées pour vous-même de cet épisode ?
J'en ai tiré moi qui ai toujours vécu avec un sentiment de démesure, avec le sentiment démesuré que je pouvais tout transformer, j'en ai conclu que j'avais été totalement orgueilleuse et vaniteuse, et que il y a de l'impossible en fait, il y a des vraies limites. Il y a qu'à un moment, il faut considérer que nous sommes séparés et que je n'y peux rien, en fait. Je n'y peux rien. Ça ne m'a pas atteint, en fait, parce que, comme l'a dit dernièrement quelqu'un qui est venu faire une formation dans la maison, quelqu'un m'a dit, ce conflit était très long et très violent, mais comment expliquez-vous que les gens de l'équipe vous aiment autant ? Parce que, en un sens... 80% des gens de l'équipe sont restés au travail et ont enduré l'opprobre public, etc. Alors, ça ne m'a pas atteint, une fois de plus, parce que je pensais que ces gens avaient tort, enfin voilà, tout simplement, et qu'ils se comportaient mal, qui plus est. Mais j'en ai tiré quelque chose de psychanalytique, qui était « il y a de l'impossible ».
Et y a-t-il chez vous un goût pour la dispute, un goût pour le combat que certains peuvent parfois juger excessif, et vous-même aussi peut-être ?
Peut-être, moi en ce moment je réfléchis beaucoup à mes propres défauts et limites. Moi je ne crois pas que j'aime la dispute, bien que je sois méditerranéenne. Alors chez nous la dispute c'est presque le stade normal, enfin l'état normal de l'individu. Mais ce que j'aime, en revanche, c'est ne pas laisser quelque chose qui serait de l'ordre du déni ou de la confusion, ne pas le laisser perdurer. Donc je n'ai pas peur du conflit, je n'ai pas peur, en fait, de la dispute, au sens... Je n'ai pas peur de l'établissement du fait qu'on n'est pas d'accord. Ça ne me gêne pas. Et peut-être qu'en effet, ce que je dois apprendre, c'est que pour certains, ça n'est pas le cas et que ça n'est pas possible, en un sens, que c'est une violence qui leur est faite. Quand moi, j'exige ou de la clarification, certains ont besoin de l'opacité, en fait. Et voilà, donc...
Dans votre sillage, Alain Badiou est apparu à Aubervilliers, on dira autour de la commune. Quand et dans quelles circonstances avez-vous rencontré Alain Badiou, Marie-Josée Malice ?
Je l'ai rencontré parce que j'ai fait un spectacle d'après Pasolini et je lui avais demandé de venir discuter de ce spectacle publiquement. Il ne pouvait pas, il m'a donc conseillé de rencontrer une de ses amies, Judith Balzo, qui est devenue une amie très importante. Et simplement, il est venu voir le spectacle. Et il a été enthousiasmé, puisque c'était un spectacle assez drôle, un peu fou, où Lacan était convoqué, enfin, toute une enquête sur le sujet. Enfin bon, c'était très, un peu dingo. Et à partir de ce moment-là, on est devenus amis, oui.
Alain Badiou, philosophe respecté, non prestigieux, mais pas précisément synonyme de consensus. Qu'est-ce qui, sur le plan politique, philosophique et artistique, vous rapproche, si tant est que ces trois dimensions puissent être dissociées ?
Oui, vous avez raison, je ne suis pas sûre qu'elles puissent être dissociées. Mais chez Alain, elles le sont, elles sont chacune un régime de vérité. En tout cas, pour le théâtre, Alain propose qu'on fasse un théâtre affirmatif, qui ne soit pas seulement un théâtre critique. Ça me paraît très important aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut chercher des hypothèses positives et pas se contenter de critiquer. Et pour ce qui est de la politique, Alain m'a aidé à comprendre justement cette catégorie des contradictions au sein du peuple, auxquelles je crois j'ai été confrontée. Le fait que le peuple n'est pas toujours populaire, ou le fait que le peuple ne cherche pas toujours, ne sert pas toujours son propre intérêt, et que donc il y a des choses extraordinairement douloureuses à appréhender dans une situation sociale, qui plus est quand elle est comme la nôtre, en état de crise, et qu'il faut donc être très précis, très courageux, et aussi en un sens très, très humble, très opiniâtre, à essayer de discuter avec les gens malgré tout. Voilà. Donc Alain, pour moi, c'était un très très grand philosophe, et en plus, je dirais que ce qui me lie à lui, c'est tout simplement l'admiration, c'est-à-dire être face à la splendeur d'une pensée. Il n'y a pas beaucoup, et c'est une chance dans la vie de pouvoir accompagner modestement une telle beauté, en fait.
Et quelle place, quel rôle tiennent les philosophes, la philosophie dans votre travail ?
Moi, je pense que le théâtre est lié à la philosophie. Certains d'entre nous pensent que le théâtre est lié à l'image, mais je suis de celles et ceux qui pensent que le théâtre, c'est un lieu où, justement, on vient penser ce qu'une idéologie, ce qu'une époque fait aux individus. Quand je choisis des textes de théâtre, quand je les travaille sur un plan poétique et philosophique. Poétique parce que je travaille, comme je vous l'ai dit, la lettre du texte, les mots sont très importants, et philosophique parce qu'avec les acteurs, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est dit réellement là et qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre destin individuel et collectif. J'ai un ami qui m'a dit que le théâtre était peut-être le seul vrai lieu politique qui existait encore, parce qu'on examine réellement les conséquences sociales, voilà, les conséquences collectives d'une pensée.
Et qu'est-ce que l'école des actes, Marie-Josée Malice ? De quel constat est-elle née, cette école ?
L'école, elle est née d'un constat renversant. Un ami a dit, il s'appelle Julien Machiot, un jeune philosophe, et a dit un jour, les gens ne viennent pas au théâtre parce qu'ils ne savent pas que quelque chose y est bien pour eux. Il a dit, c'est le contraire, les gens ne viennent pas au théâtre parce qu'ils sont très intelligents et ils savent parfaitement qu'au théâtre, il n'y a rien pour eux. Donc c'était une déclaration tout à fait fracassante. Et moi, j'ai dit, on s'arrête là et on bâtit une politique à partir de là. Donc l'école des actes, au départ, ça a été la volonté d'aller à la rencontre des gens et d'essayer de les connaître, de savoir de quelles pensées, de quelles aspirations la population était porteuse pour que le théâtre, à partir de là, puisse avoir un discours bien plus documenté et bien plus intelligent sur le présent. Et très vite, cette école, qui est donc ouverte tous les soirs, qui est gratuite, qui est un travail de titan, et qui est menée par Judith Balzo, et dont Alain Badiou est le président, cette école, en fait, a recueilli ce qu'on appelle les migrants. Donc, c'est très émouvant, on a vu arriver tout de suite 200 migrants, qui ont pris très au sérieux notre proposition d'une école, alors qui est une école désormais dans laquelle on apprend le français, mais qui est surtout une école politique et philosophique, dans laquelle on examine toutes les grandes questions du temps présent. Qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que ça devrait être? Qu'est-ce que le logement pour les pauvres, qu'est-ce qu'il devrait être? Et nous ont rejoint des architectes, des juristes, et avec les gens de la population, on est en train d'écrire un manifeste, où on fait des propositions, donc des propositions architecturales, juridiques, etc., pour améliorer la vie de tous, et en particulier de ceux qui sont pauvres.
Qu'est-ce qui fait la singularité de la richesse d'une ville comme Aubervilliers ? Qu'est-ce qui fait que Richard Maxwell, metteur en scène et dramaturge new-yorkais que vous avez accueilli à la Commune pour une pièce d'actualité, qu'est-ce qui fait que Richard Maxwell ait du mal à repartir, à prendre son avion pour rentrer aux États-Unis, Marie-Josée Malis ?
La pauvreté intense et la cordialité qui va avec. La fraternité qui naît forcément et comme une fleur de toutes ces situations très dures, hein, où les gens sont cordiaux, s'entraident, etc. La diversité, bien sûr, ce qu'on appelle la diversité. Le monde, la terre entière est là. Et Richard, en un sens, disait c'est comme New York d'avant la gentrification. Je crois que ce sont des terres d'avant-garde, en fait. Je crois que c'est là où il y a la plus haute nécessité que s'inventent les plus hautes solutions, parce qu'il faut bien, bon, bah, il faut bien inventer, on ne va pas subir. Et Aubervilliers a un côté comme ça, un côté très courageux, opiniâtre, têtu, et les gens cherchent des solutions généreuses. Jacques Ralite disait que Aubervilliers était rude et tendre, à la fois, c'est vrai. Et voilà, je pense que de toute façon, à Aubervilliers, on est au pied du mur, on ne peut pas être un menteur. Si on fait le malin, bon, on peut faire le malin, beaucoup de gens prospèrent en faisant les malins, après tout. Bon. Mais en tout cas, ça se voit, je crois.
Quand vous regardez Aubervilliers aujourd'hui, les enfants d'Aubervilliers, est-ce que vous vous dites parfois, ces enfants, dans le monde tel qu'il est ici, n'auront jamais la chance que j'ai eue de pouvoir devenir quelqu'un d'autre que celle que j'étais destinée à être ?
Oui, je pense, oui. Je pense que c'est très violent ce qui se passe pour les enfants d'Aubervilliers et de beaucoup d'endroits en France, même. Je dirais pas seulement les banlieues, hein, d'ailleurs, désormais. Oui, quelque chose s'obscurcit, quelque chose devient violent, les séparations sociales sont à l'œuvre. Les classes moyennes et les classes dirigeantes craignent elles-mêmes pour leurs propres enfants et donc sont infiniment moins partageuses. Il y a évidemment l'abandon du terrain, je dirais, politique et social au profit du terrain identitaire. Donc les revendications ne sont plus dites en termes de lutte des classes, mais en termes d'opposition, d'identité. Je ne crois pas que ce soit une très bonne nouvelle, même si je comprends. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne option. Je crois qu'il faut continuer à désirer un monde à traverser, à transformer tous ensemble qui que l'on soit. Mais je crois, en effet, qu'il y a vraiment urgence à prendre au sérieux la souffrance sociale des jeunes. Et puis, par rapport à mon monde à moi, comme je vous l'ai dit, j'avais le sentiment d'être attendu sur Terre parce qu'il y avait du travail pour nous. Notre place était promise. Là, les jeunes gens, ce sont des jeunes gens à qui on dit « mais tu es de trop ». Ton désir m'importune ou me fait peur, et qui plus est, ne te fais pas d'illusions, il n'y a rien pour toi. Bon, c'est pas possible en fait.
Merci Marie-Josée Malis.
Merci.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alban Penaranda avec Marie-Josée Malis. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.